Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau magazine de la moto le dimanche 11h à midi sur le 106,6 de Radio Campus Lille ou www.campuslille.com. Au sommaire de cette émission, nous avons rendez-vous avec Gilles Fagnin pour l'actu du Superbike. Gilles, bonjour.
Oui, bonjour. Avec
On va revenir sur la victoire de nos deux Français peut-être, on en a déjà parlé. Hein.
Ouais,
Trois Français.
Un trio de Français, mais il y en a d'autres aussi, hein. Mais bon, on en parlera plus dans le détail. Par contre, je voulais juste démarrer l'émission sur une note d'optimisme, puisque sachez que les chiffres du marché de la moto sont en hausse.
Et alors ?
Bah ça c'est bon quoi, je veux dire, notamment les gros cubes. Les grosses cylindrées, s'il y en a un engageant, plus 19,8% de vente.
C'est incroyable.
Allez,
hein, c'est parce que j'en ai acheté une.
Ça c'est de la formation ça.
C'est parce qu'il y a du soleil ça, non ?
C'est que j'en ai acheté
alors,
une.
Alors c'est parce qu'on a eu un hiver clément.
Ça. Voilà. Ça change l'année dernière.
En tout cas, ça nous réjouit. En tout cas, moi je suis content.
Bah, on est tous sur le sourire. Voilà. Alors nos invités, Claude Bonduel et Nicolas Poiret, deux grands passionnés de sport moto. Avec eux, nous allons tenter de faire un pronostic, comme d'hab, début d'année, au mois de mars, avant justement, qui va gagner ce fameux championnat du monde de vitesse 2014, qui va commencer le week-end prochain, donc première course au Qatar. Claude, Nicolas, bonjour.
Bonjour.
Alors, bonjour. En plus, on va parler un petit peu, il y a beaucoup de changements. Hein. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont foutu, la Dormol.
Ça cafouille.
Y a, la CRT, ça, la catégorie CRT est partie.
C'est pas illuminé, hein, puisqu'il va y avoir encore deux motos avec des moteurs CRT cette année, mais c'est marqué Open, mais c'est plus du tout de la même façon, mais c'est vrai que la CRT est partie aux oubliettes.
Il va falloir que vous nous expliquiez un peu tout ce qui se passe, parce qu'il y a ce fameux allumage là, la gestion électronique magnétique qui est obligatoire pour toutes les marques, alors qui va être
catégorie Open.
Et même aussi,
c'est la même centrale.
Le logiciel est différent. Hein, c'est vachement compliqué hein, cette année. Alors, il va falloir suivre le truc. Hein. Donc, 19 Grands Prix, ça commence donc dimanche prochain au Qatar, de nuit. Hein, ils n'ont pas encore mis de lumière sur les MotoGP.
Non, par contre, ils éclairent comme en plein jour avec un grand goût de pétrole.
Ouais, mais ils ont les moyens. Ouais,
plutôt au gaz, parce que j'y suis allé. Ouais, c'est parce que le Qatar n'est pas producteur de pétrole, il est producteur de gaz.
Ah bon?
Et là, ils ont des pylônes avec des réservoirs au pied des pylônes pour éclairer. Enfin, c'est un truc de fou.
Ouais, c'est un truc de fou.
Bah, ils ont de quoi, hein, de toute façon. Voilà. Et donc, ça se termine ça va se terminer le 9 novembre en Espagne. Hein, on verra. Donc,
toujours en Espagne.
Avec trois pilotes. Favoris dans la catégorie Rennes. Hein, donc, Marquez, forcément.
Oui.
On va dire Lorenzo.
Lorenzo, oui, il veut sa revanche.
Oui, et Pedrosa, et puis
Rossi
hein, il a fait 4 pages dans des magazines cette semaine là.
Il
retrouve le sourire apparemment, hein, il retrouve ses marques sur la moto.
Oublier Rossi pour une chose, c'est que dans toute sa saison, il y a toujours eu une année pour apprendre, une année pour gagner.
Oui, alors c'est ce qu'il dit. Hein,
mais à part Ducati qui a été particulier.
Moi, je peux te dire que j'ai vu Marquez l'année dernière au Mans. C'est un fin pilote. Hein.
Ouais, c'est clair.
Ce mec-là, il a ça dans le sang. Hein.
Beaucoup de chance aussi.
La progression de la boîte Seamless chez Yamaha. Donc, je pense que cette boîte a progressé. Et je crois que pour ça que Rossi a le sourire. Parce que l'an dernier, ils n'étaient pas au point. Et là, la boîte, à mon avis, va la ramener énormément de progrès au niveau de la machine.
Et les pneumatiques aussi.
Il y a des choses qui vont changer aussi au niveau pneumatique, donc avec un pneu qui n'était pas très bien, pas très performant l'année dernière et qui a apparemment été amélioré par Bridgestone. Donc cet hiver qui plaît aux pilotes Honda, mais pas aux pilotes Yamaha.
C'est compliqué tout ça. Hein.
Là, il va falloir être à l'écoute. Hein. Donc voilà, les infos au calendrier avec Christine. Bonjour Christine.
Oui.
Le printemps arrive et puis là, on va commencer à avoir pas mal de sorties.
Oui, bien sûr. Je vous donnerai quelques infos tout à l'heure.
Et puis je vous rappelle que le programme musical est signé Laurent Rodier.
Popped up
Spécial championnat du monde de vitesse 2014 avec deux passionnés, Claude Bonduel et Nicolas Poiret. Claude, Nicolas, on va. Il y a eu des essais là. Il y a Sepang et
la semaine dernière. Déjà.
Voilà. On a vu un Lorenzo. Très, très performant en fait.
Ça dépend où, ça dépend quand. En fait, il y a eu plusieurs séries depuis le mois de février d'essais. Et c'est très très partagé, puisque en fait, on a vu Marquez exploser dès le départ avec des temps incroyables, puisque il a fait un meilleur temps chaque tour du record de l'an dernier.
Même son team est resté
4,
sur le cul.
4 dixièmes de mieux que tout le monde.
En fait, sur une course, ça fait 23 secondes de gagner.
Donc c'était énorme. Le seul problème, c'est qu'entre deux, il s'est cassé le péroné.
Oui.
Donc on l'a plus vu après. Mais bon, je pense que c'est pas un péroné qui va l'arrêter. Je pense pas que ça va l'affecter énormément.
C'était fracture sans déplacement. Oui. Donc logiquement, avec un arrêt prolongé d'un mois, un mois et demi, ça serait suffisant.
Alors, on va commencer avec ces pilotes. Donc, le dimanche prochain, le 23, c'est bien le 23, oui, c'est le 23 mars.
Ouais, c'est
donc, c'est le premier Grand Prix au Qatar. On a vu des articles sur ce fameux avec Valentino Rossi, qui est repassé sur Yamaha l'année
dernière,
en 2013.
Qui n'a pas convaincu.
Qui n'a pas été très performant.
Pas convaincu, non.
Et puis là, apparemment, il a fait des essais pareils. Donc à Sepang et puis
les deuxièmes essais.
Il déclare que finalement
tout va bien,
que tout va bien, et qu'ils sont très bien sur la machine et qu'ils pensent pouvoir être au moins sur la troisième place.
Il faut jamais oublier, c'est ce qu'il a dit l'année dernière déjà, qu'il s'améliorait et que ça allait mieux de mesure en mieux. Ça a été un peu logique au début, mais après il a stagné quand même en fin de saison.
Il déclare aussi que si jamais il n'est pas performant, il arrête sa carrière.
Ouais.
Il a tout fait pour se donner de la motivation. Il a changé d'équipe de mécanicien. Et puis là, il est reparti. Et c'est vrai qu'il faisait des meilleurs temps que Lorenzo sur la toute première partie des essais. Il était très performant. C'était lui le deuxième derrière Marquez. Donc c'est vrai qu'il a retrouvé le sourire. Meilleur Yamaha.
Et puis donc Lorenzo aussi, on vient de dire qu'il a fait de très beaux temps aussi, donc Sepang.
Mais Lorenzo,
non, pas Sepang justement.
Sepang, c'est raté. Enfin, deuxième partie, c'est complètement raté, puisqu'il n'était pas content des nouveaux pneus Bridgestone qui avaient été donnés. Et pour lui, il favorisait trop Honda. Enfin, il a râlé toute la. Il a terminé, je ne sais plus, septième ou.
Alors, effectivement, il déclare qu'effectivement, ce pneu, les pneus Bridgestone auraient avantagé Honda, ça avantage la Honda que Yamaha.
Voilà. Donc c'est pour ça qu'il a fait des essais à Phillip Island et là ça s'est très bien passé pour lui avec les nouveaux pneus, parce qu'on se souvient que l'an dernier sur ce Grand Prix ils avaient dû interrompre le Grand Prix parce que tous les pneus n'étaient pas
une course complète. Donc
c'était de la folie. Voilà. Donc là ils ont fait des essais avec des nouveaux pneus qui lui donnent satisfaction, et Lorenzo avec ce nouveau pneu ça lui a plu puisqu'il avait le meilleur temps.
Donc effectivement, quand on regarde un petit peu, on en parlait un petit peu en antenne, quand on regarde un petit peu la saison 2013, Lorenzo pouvait être encore une fois sacré champion du monde, parce que c'est parce qu'il s'est cassé la clavicule et retombé ensuite encore une fois sur la même. Et donc on a dit forcément Marquez, première saison, le plus jeune champion. Maintenant, il a battu, je crois, Kenny Roberts.
Il a égalé
le record. Mais Lorenzo pouvait effectivement aussi gagner ce championnat.
Il y a juste une question de chance aussi. Marquez est tombé pratiquement 4 ou 5 fois plus que Lorenzo ou Pedrosa. Et il s'est jamais blessé.
Regarde, Lorenzo a remporté 8 Grands Prix, 2 de plus que Marquez.
Ouais.
Tu vois, et c'est.
Oui, mais il y a eu 3 résultats blancs aussi.
Et voilà, c'est ça le problème.
Ouais. Et surtout, 2 courses complètement ratées. Le Mans. Sous la pluie, où il y a galéré, il a fini, je ne sais plus, 7e ou 8e, vraiment une galère pas possible. Et un autre Grand Prix où justement il revenait de blessure, où il a terminé 4e ou 5e. 4e, je crois.
Donc on parle de Pedrosa, coéquipier de Marquez. Alors lui, c'est depuis.
Est-ce qu'on a le droit d'en parler?
Depuis 2006, il essaye d'être champion du monde. Depuis 2006.
C'est un chat noir, à mon avis, souvent que je ne sais plus quel pilote, ils avaient coincé un chat noir sous sa selle, mais je crois que lui, franchement, oui, je pense aussi qu'il doit avoir quelque chose.
Il n'a pas de chance, il est toujours meilleur que lui devant lui à chaque
fois.
Il était excellent. Seulement, il y a d'abord eu Rossi, après il y a eu Stoner, maintenant il y a Marquez, il a à chaque fois une grosse pointure devant lui. il peut pas s'épanouir et il prend, c'est compliqué.
Et pourtant, il remporte des grands prix chaque année.
Chaque année,
au moins deux grands prix.
Il faut savoir qu'il y a deux pilotes qui sont en fin de contrat, donc c'est Rossi avec Yamaha et puis Pedrosa avec Honda. Et donc, ils ont tout intérêt, s'ils veulent être présents en 2015.
Faire un échange, ça pourrait être fructueux.
Je sais pas, écoute. Rossi a commencé sur la Honda. Hein.
Il y en a tellement débattu sur Honda que je pense pas qu'il retourne chez Honda. Enfin, je le vois pas.
Pour son 10e titre.
Bon. C'est jamais. Mais bon, je n'y crois pas.
Spécial championnat du monde de vitesse aujourd'hui sur le magazine de la moto. 19 grands prix, hein, ça commence dimanche prochain au Qatar. Allez, on rentre de plein pied avec toutes les modifs du championnat 2014 parce qu'il y en a. Donc il y a cette fameuse catégorie CRT qui disparaît et une qui arrive, c'est l'Open. Alors il faut nous expliquer un peu, là, ça va pas être facile.
Ah. Alors l'Open, c'est des motos avec des... comment ça s'appelle ? Alors Honda va dire le contraire, mais c'est des motos de compétition client. Ça veut dire dérivé de la première moto officielle, mais accessible à tout le monde. Ça veut dire accessible à l'achat avec un un prix, alors je ne sais plus le prix exact.
Non, mais en fait,
un prix abordable.
Le principal, c'est de réduire les coûts. En fait, voilà. C'est vrai qu'il y a 2-3 ans, la grille de départ, le nombre de machines, il y avait combien ? Il y avait 9 pilotes, 9 motos.
Non.
En moto GP.
Il y a toujours eu plus de 15 motos. Mais le problème, c'est qu'on finissait avec des wild cars. Enfin, ils finissaient jamais à 15.
Donc le but, c'est de redonner un petit peu d'élan à cette catégorie.
Les années précédentes, ils ont essayé de mettre des CRT qui étaient en fait des motos trop proches des superbikes pour pouvoir être compétitives. Donc cette année, ils ont essayé un nouveau système avec l'Open. Donc en fait, ils ont donné un avantage à l'Open. Les motos, il y a deux catégories. Donc factory, c'est moto d'usine. Factory, usine. On n'a pas le droit de toucher au moteur. On doit mettre la nouvelle puce électronique qui est fournie par la Dorna, qui est la marque maritime Aurélie.
On va revenir après sur ce truc-là.
Oui, attends. Et ensuite, on a le droit de mettre un logiciel libre. D'accord, ça c'est pour la catégorie.
Leur propre logiciel,
factory.
Toutes les motos sont équipées de ce fameux système Marelli là.
C'est juste la puce. Après le logiciel dessus, on peut mettre.
Il y a le boîtier. Et après il y a le logiciel.
Voilà. Donc on a le droit de mettre le logiciel usine quand on est en factory. Par contre, donc en fait, en gros, en factory, on n'a pas le droit de toucher moteur, on a le droit de toucher électronique. Pour simplifier. Pour l'open, c'est l'inverse. En open, on a le droit de faire évoluer le moteur. Par contre, on a une électronique standard, moins bien, beaucoup plus simplifiée, et que la Dorna voudrait imposer à terme à tout le monde. Et donc, par contre, on a le droit de faire évoluer le moteur. Donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'issue des essais hivernaux, Ducati, qui était en difficulté pour faire évoluer sa machine, qui rame depuis 4-5 ans, ils se sont dit, nous, on ne peut pas être en catégorie factory, parce qu'on n'a plus le droit de toucher au moteur, on ne peut pas évoluer. Donc, c'est foutu, le championnat est mort.
Alors, ça, c'est incroyable, c'est que Ducati a inscrit ses machines en catégorie open.
Alors, voilà, donc c'est ça.
Donc, ils jouent dans la cour des petits.
C'est ça qui est dingue, c'est qu'une moto d'usine, elle devient open. Et donc, on perd l'esprit du truc. Donc, ils sont coincés. Ils sont coincés.
Mais là, on détourne le règlement parce qu'en fait, il a des performances de ces motos ont des performances de catégorie MotoGP.
Mais les performances, elles rentrent pas en ligne de compte dans la catégorie telle qu'elle a été écrite. C'est juste des litres dans le réservoir. Ouais. Donc les factories ont moins de litres.
Oui, mais ça change tout parce
qu'ils ont le droit à 21 litres au lieu de 24.
Ouais, mais, du coup, t'as oublié de dire que par contre, en catégorie Open, ils vont avoir droit à pneus arrière plus tendres, plus d'essence, plus de moteur. Et pouvoir améliorer le moteur, les performances durant toute la saison.
Donc en gros, alors ça vaut le coup d'être open.
En factory, ils n'ont pas le droit d'y toucher.
Voilà.
Oui, voilà. Mais de toute façon, le problème aussi, c'est justement les 12 moteurs qu'ils vont avoir sur l'année vis-à-vis de 5 moteurs pour les motos factory. Open, ils vont avoir 12 moteurs pour faire toute la saison. C'est pratiquement un moteur pour deux grands prix, ce qui est énorme. 24 litres à la place de 20 litres. Donc c'est pas mal aussi, et faire surtout évoluer le moteur, pour Ducati c'est primordial. La seule façon qu'ils avaient en restant en factory, c'est de le faire évoluer à l'intersaison. C'est-à-dire en un mois et demi, en juillet-août, il fallait qu'ils fassent tout au juillet-août, mais s'ils rataient le début de saison, ils savaient qu'ils s'étaient ratés pour toute la saison, pratiquement. Donc le seul moyen, de toute façon, Delagna, le nouveau manager Ducati, c'est un féru. Il a aussi fait pas mal de grognements en superbike à l'époque qui faisait
avec
Aprilia. Parce qu'il a joué avec les règles. Il sait très bien lire les règles et jouer avec pour être toujours dans les marges. Et il est dans les marges.
Donc dans l'histoire, on va retrouver combien de pilotes sur la grille dans cette catégorie MotoGP Open ?
On a en Open, en tout et pour tout, on a 23 pilotes inscrits. Et en Open, il faut retirer surtout
catégorie. En fait, il y a des vraies factories. Il y a les deux Tech 3 Yamaha, il y a les deux Yamaha officiels, les deux Honda officiels et une Honda.
Les deux Honda, celle de Grisini et LCR. Donc voilà, il y en a 8.
Voilà.
Il y a 8 motos officielles et le reste est open.
Donc c'est le but recherché, c'est de mettre un petit peu plus de pilotes sur la piste, de
façon
à faire un spectacle qui soit un petit peu plus relevé que d'habitude.
Mais en faisant ça, en fait, ils ont un petit peu trop avantagé, à mon avis, la catégorie open, parce qu'ils veulent la promouvoir pour les années à venir. Donc, si tu veux, ils se sont retrouvés avec un truc aberrant, c'est que les open allaient bientôt être plus compétitifs que les factory.
Et dans l'absolu, s'ils cassent leurs 6 moteurs,
c'est foutu.
C'est foutu, donc les open passent devant.
Voilà.
On est d'accord.
Donc, et en plus, au niveau réduction de coûts, à quoi ça rime de faire des open qui ont le droit à plein de moteurs, donc vachement plus cher finalement, que des... Enfin, on
vient... Moi, si j'étais le big boss de Yamaha, je serais parti en open.
Tout le monde va partir en open. Mais
le problème, c'est qu'il ne faut pas oublier aussi que Yamaha, justement, et on reproche à Yamaha, justement, les deux Yamaha qu'ils ont fournis à Edwards et Alex Espargaro, c'est des M1 officiels de l'année dernière.
Donc des motos d'usine en fait.
Juste avec le changement électronique commun à tout le monde, mais c'est tout. Donc c'est pour ça qu'en essai, elles ont marché très fort.
Donc le dernier rebondissement, une seconde, le dernier rebondissement finalement c'est cette semaine, c'est qu'ils se sont rendus compte de tout ça, qu'en fait que les Open étaient un petit peu trop compétitives, presque. Donc ils ont fait une catégorie Factory 2.
Ah oui.
Et donc alors la Factory 2, quand on lit comment est foutu le truc, on voit pour qui c'est destiné. En fait, c'est Factory 2, c'est pour Ducati. Alors, en fait, la personne qui est en open, enfin, les pilotes qui sont en open, s'ils gagnent, s'ils sont premiers une fois, ou s'ils sont deuxième deux fois, ou s'ils sont troisième trois fois.
Oh là là, mais dis là, Nico,
là, c'est compliqué. Et deux open, ils passent systématiquement à Factory 2.
Il n'y a plus beaucoup de motards qui vont suivre les.
À Factory 2, ils perdent. Alors, on avait le droit soit à 24 litres, soit à 20 litres. Ouais, maintenant, c'est 22 litres et demi.
Moi, j'arrête, je ne comprends plus rien du tout là.
Ils pondent ça à une semaine du prochain Grand Prix. Il faut le faire quand même.
Oui, mais ça fait une semaine que Ducati a annoncé. Enfin, ça fait 15 jours que Ducati avait annoncé son passage en open.
Et on donne aussitôt à râler en disant bah non, c'est pas l'esprit de l'open. On nous dit qu'on veut réduire les coûts et maintenant il y a des usines en open. Alors, à quoi ça rime?
Et il va avoir une tombola après chaque course normalement. Il va avoir des casques à gagner, des autocollants.
Alors, il va falloir.
Pour faire un diagnostic. Pour faire un pronostic cette année, Nico, et puis Claude, ça va être terrible. Ça va être compliqué pour vous.
Si on ne change pas le règlement d'ici là.
Si vous trouvez un 2 et 3 dans l'ordre, je vous paye le restaurant.
Alors, il faut. Si on résumait le bazar là, alors tu nous dis. Parce que ce règlement a encore changé cette semaine.
Oui.
Donc alors, il va y avoir les Factory, les motos GP, les motos d'usine, Honda, Yamaha, il n'y en a que 4.
Et Factory 2. Les bonnes open, ça va être des Factory 2. Ah bah, les open qui gagnent, elles deviennent Factory 2 systématiquement.
C'est fait pour Ducati. Est-ce qu'ils auront droit à 12 moteurs et plus d'essence?
Ah non, alors on a le droit à moins de moteurs. Factory 2, on a le droit à 7 moteurs.
Et plus que les facteurs que le MotoGP.
Ouais. On passe à 7 moteurs.
D'accord.
Donc c'est intermédiaire en fait, c'est entre les deux. Ils ont fait une catégorie entre les deux.
Bah disons,
c'est infernal. Autant de catégories que de pilotes.
Chacun
va être vainqueur de sa catégorie.
Bon, bah écoute, on va passer un petit morceau de musique et on se retrouve après.
This horse is headed down now, at least that's what the old folks say.
Au téléphone, nous avons Jérémy Mollars, le président du motoclub de Vingles.
Oui, bonjour.
Bonjour Jérémy. On va parler de ce trial à l'ancienne qui aura lieu donc le week-end prochain sur la base de loisirs de Vingles.
Oui, c'est ça, de Vingles d'Ouvrain, Biberclos.
Voilà, explique-nous donc comment se passe cette manifestation. Donc c'est des machines qui sont des années 60, 70, 80 max. Hein,
avec oui, des... voilà, ce sont des machines à l'ancienne, comme on appelle ça, donc avec obligation d'avoir refroidissement à air. Donc c'est pour ceux qui connaissent, ils verront déjà à peu près l'époque. Donc c'est ouais, les dernières étaient des années 80 à peu près, donc c'est tout ce qui est avant en fait.
Est-ce que tu peux nous donner un peu des marques de moto qui seront présentes dimanche prochain?
Pour les connaisseurs, on aura Bultaco, BSA.
Ah oui, c'est pas hein, aussi, c'est ouais, pas donc, c'est pas d'aujourd'hui ça. Hein.
Voilà, ouais, c'est même existant avant moi, je pense.
Donc alors forcément les zones sont prévues pour ces machines hein, ces machines des années 60 hein, c'est pas
alors, contrairement, je dirais même bizarrement, on pourrait croire que les pilotes sont aussi anciennes que les machines. Eh ben il y en a bien sûr quoi, mais il y a pas mal de jeunes pilotes. On a même, c'est la première fois cette année, on a un pilote de 14 ans pour vous dire qu'il va participer à cette course quoi, qui se déroule la semaine prochaine. Un jeune pilote donc qui s'est mis à la moto ancienne.
Voilà, donc ça commence le matin vers 9h, tu m'as dit. Hein.
9h30, on espère pouvoir donner le départ vers 9h30 parce que les trialistes ils sont un petit peu à l'ancienne aussi, donc ils ont un peu de mal à être à l'heure, mais départ disons 9h30 quoi, avec on fait une petite coupure le midi pour se restaurer. Ensuite, les fins des zones quoi, sont prévues pour 6h30. Quoi.
Alors, pour les éditeurs hein, qui ne connaissent pas la discipline, en fait, ça fait marcher aussi les spectateurs hein, sur un trial, hein, parce qu'il faut partir oui. Il faut aller de zone en zone.
Voilà, en fait, l'épreuve se déroule donc sur le terrain de la base de loisirs. Donc, il y a 12 zones réparties sur le site. Et, donc, accès à toutes les zones par le public, quoi. Et ça fait une petite promenade en même temps.
En plus, pour le trial, est-il préférable d'avoir du terrain sec ou du terrain gras?
Alors, je pense, là, je suis pas un pro en trial, mais je sais qu'ils m'ont déjà parlé qu'ils préfèrent avoir un petit peu de gras pour dire.
Entre les deux, quoi.
Accroche. Ouais, entre les deux.
Ouais, quoi. D'accord.
Je pense qu'ils préfèrent avoir un peu de gras que de sec, quoi. Mais bon, j'espère que la météo va être avec nous et puis qu'on aura. On aura pas mal bon. De public.
Alors c'est pas une course, hein, c'est simplement une démonstration. Il y a un petit classement quand même à la fin de la journée.
Il y a, si, c'est parce que en fait l'épreuve compte pour le championnat AFATA. Donc
ah oui, ah bah oui, quand même. Ouais.
Donc si, il y aura un classement.
Non, il y a quand même un classement alors.
Ouais. Et il y a différentes catégories qui vont par rapport aux années des machines en fait.
Très bien. Donc ça commence 9h30 hein, jusqu'à 17-18h.
Ouais, on va dire ça jusque 17h, quoi, avec restauration sur place.
Très bien, c'est gratuit hein, pour les spectateurs.
C'est gratuit, ouais, ouais.
On situe un petit peu où se trouve la base de loisirs, là, à Vingles.
Alors, donc la base de loisirs de Vingles d'Ouvrain, Biberclos, pour les personnes ayant un GPS, vous tapez rue Jules Ferry à Biberclos et vous allez retomber sur le circuit, quoi. De toute façon, là, on est en pleine préparation. Et on va tracer la sortie des autoroutes, qu'on va mettre un petit fléchage pour amener directement au circuit.
Très bien, Jérémy. Je ne vais pas t'importuner plus longtemps, puisque vous avez du travail hein, pour préparer cette épreuve de trial à l'ancienne. On te souhaite du bon temps, peut-être, pour dimanche prochain, quand même, au moins pour les spectateurs.
Spectateurs et en même temps les pilotes, parce que là, en engagement, je suis déjà supérieur par rapport aux années précédentes. Donc,
ça va bien, alors.
De bien se présenter, donc, pourvu que ça dure.
Eh bien, on te souhaite de passer un bon dimanche et puis surtout une bonne manifestation pour le week-end prochain.
D'accord, ben merci bien, merci à vous.
Merci, au revoir. All the shit that's on
commented. These wounds, they bleed and bleed. These wounds will be the death of you and me. These wounds, they commented. These wounds.
Spécial championnat du monde de vitesse hein, qui commence le week-end prochain donc au Qatar en pleine nuit, enfin non c'est en soirée hein,
20h30
voilà, on va faire un parallèle avec le Superbike et puis ce fameux championnat de vitesse parce que c'est le même
spécial championnat du monde de vitesse au pluriel parce qu'il y a deux championnats du monde de vitesse en fait, il y a le MotoGP et il y a le Superbike, et dans le Superbike c'est pareil, il y a aussi qui a été repris par la Dorna depuis peu, il y a aussi une nouvelle catégorie qui a vu le jour, comme le CRT en GP l'an dernier, ils ont lancé la catégorie Evo. Alors qu'est-ce que c'est que la catégorie Evo ? C'est beaucoup plus simple, c'est des machines de série, dont la liste figure, il y a une liste de machines acceptées, a vendu plus de 5000 exemplaires, je pense. Et ensuite, il faut que l'électronique et le moteur soient stock. Voilà, c'est ça la catégorie Evo, c'est aussi simple. Alors, on a bien sûr observé en Australie ce qu'elle est donnée cette catégorie Evo, en fait, c'est notamment Chris Vermeulen qui est devenu un champion belge, qui est devenu commentateur pour Speedweek, un site allemand, qui dit effectivement, ça n'a jamais été aussi bien. Parce que désormais, il y a 8 constructeurs sur la grille, avec Bimota aussi, ce serait peut-être 9. Donc il y a Bimota, Buell Racing, donc Eric Buell, qui fabrique les célèbres motos à moteur Harley, qui a fabriqué une moto pour venir en Superbike. Donc il y a au moins 25 pilotes sur la grille, et ça donne de très belles bastons. On a vu ça à Phillip Island. Et donc l'an prochain, cette catégorie Evo deviendra la règle pour tout le monde, ce qui veut dire qu'on aura des machines beaucoup moins, malheureusement, des courses beaucoup moins rapides et des machines beaucoup moins évoluées en termes de mécanique.
Beaucoup reproché à Moto 2 justement ce problème, mais on a vu qu'au niveau baston, ça simplifie beaucoup les choses parfois. Et on pousse un peu le meilleur pilote à sortir du lot quand même.
Seulement, c'est vrai que là encore, ça va changer la donne, puisque là où Ducati était plus du tout performant, Aprilia en stock, on ne sait pas du tout ce que ça va donner, alors que bon, depuis plusieurs années, ils sont devant. Et là, ça va faire revenir les Ducati. On l'a vu un petit peu ce week-end, donc donc c'est aussi peut-être un petit peu orienté, peut-être. Alors, on dit peut-être mauvaise langue, mais voilà.
C'est peut-être aussi pour ça que Delagno est parti chez Ducati en moto Grand Prix et a abandonné les Superbikes.
Bon. Toujours pour revenir à notre fameux champion du monde de vitesse, ça va pas être facile pour en milieu de saison pour savoir qui a le nombre de points, parce que avec le nombre de catégories, alors la MotoGP, l'Open, la Super Open, l'Open moyen.
Non, mais
tout le monde roule dans le même dans la même course. Hein.
Ouais, la même course. Ouais.
Donc les points sont distribués de cette façon-là. Après, à la fin de l'année, on peut faire des comptes pour voir qui était dans quelle catégorie et ça en est mieux sorti.
Bon, par contre, ce sera plus facile pour les pneus, parce que les pneus, il va y avoir un code de couleur en fait sur les pneus, et on va pouvoir se rendre compte, même quand on regarde la télé, quoi. Hein, que tel pilote est parti avec la pneu extra soft, extra tendre ou légèrement plus dur. Donc il va y avoir un code de couleur, donc ça passe du vert pour la gomme extra tendre, du blanc pour la gamme soft, donc on va dire moyen quoi, hein. Et puis rouge pour la gomme dure.
Oui, c'est déjà le cas ça, en fait, hein. Mais il y a juste une gamme de plus maintenant.
Donc ça va permettre de dire, tiens, bah lui il fait meilleur temps, mais attention, il est avec un pneu
qui colle à la piste. Mais il n'y a que les Open qui ont
le droit ultra soft.
Il y a que les Open qui ont le droit ultra soft.
Ouais. Ah oui, il n'y a que les Open qui ont ultra soft.
C'est donc normal, ils sont sponsorisés par les fraises Tagada.
Et puis, toujours donc, un seul manufacturier hein, de pneus donc, en MotoGP. Oui, Gilles. Oui, Wheeler, oui. C'est... Et puis donc,
c'est beau, ouais.
Et ça va faire un peu en sorte que les autres manufacturiers de pneus, enfin genre Michelin, tout ça, Dunlop, on va avoir un petit peu de retard maintenant, puisque ça fait quand même 3-4 ans que Bridgestone développe. Et quand même, on sait que la compétition, c'est quand même un banc d'essai, quand même, non? Non, vous n'êtes pas convaincu. Bon,
non,
d'accord, ok.
Non, on s'en fout.
Moi, je pensais, on s'en fout.
Mais si on parlait peut-être des Français, des nouveaux là, qui arrivent là,
Ah oui, il y en a un qui part, il y en a un qui arrive en MotoGP. Di Meglio monte de catégorie Moto 2 à MotoGP. Mais dans une écurie qui se construit à Vancia avec un moteur Kawasaki qui est malheureusement sorti des Superbikes. Donc pour l'instant, peu performant quand même aux essais. Puisqu'il a fait, j'ai plus 25e temps ou 23e temps dans les essais.
Avincia,
donc pas tout.
Avincia, est-ce que tu sais par qui c'est sponsorisé? Blue Sense?
Je sais plus. Non.
Paris Hilton.
Ah oui, oui. Oui, Avincia. Oui.
Ça va être chaud.
C'est une écurie qui fait de l'argent.
Mais non, qui faisait courir Maverick, Vinales.
C'est ça, ouais, c'est incroyable. C'est pas rien, donc c'est une bonne écurie quand même.
Non, mais voilà, du moment qu'il met de l'argent dedans, c'est bien.
Qui a dit il va souffrir cette saison, Di Meglio?
Oui, c'est un bon pilote, je suis d'accord.
Il a franchi quand même une marche, hein, deux marches.
C'est un des deux pilotes qui monte, je veux dire, nouveau pilote dans la catégorie. Donc c'est autre chose. Il faut déjà se former à la catégorie. Si on n'a pas une bonne machine, il faut s'habituer également aussi à la machine, à la faire évoluer. Ce
donc
qui
le seul français quand même. Le seul français.
Seul français, ouais.
C'est un peu mec. Par contre, dans les autres catégories.
Il y en a d'autres. Ouais.
Et notre Randy Depuigné,
Il est parti, lui. Il va peut-être faire une course ou peut-être deux, mais c'est Suzuki qui choisira, puisqu'il est parti en pilote d'essai pour former Suzuki pour 2015, avec le retour normalement de Suzuki en 2015. Depuigné en même temps. Mais bémol.
Vous y croyez, Zelda?
Il y a un retour de Suzuki, puisque notamment en Superbike, ils ont gagné une course.
Ouais, alors écoutez, moi, je vais vous raconter une histoire. Mais c'est du vécu. J'étais au Grand Prix de France il y a deux ans au Mans. Là, c'était quand Laurent Rossi avait gagné.
Oui, il nous a fait un.
Et après, en Moto 2, il y avait aussi qui avait failli gagner, mais malheureusement, il a chuté. Et donc, on avait des espoirs. On s'est dit, on ne sait pas. Hein, peut-être que Depuigné va nous faire un beau truc. Et puis, donc, attention, le départ va être donné. Il reste 2-3 secondes. Une, deux. Les motos, ils partent et puis on se rend compte qu'il y a une chute dans tout. Bah, quand les motos partent, tu sais, on voit pas. Quoi, hein. Et qui est tombé au départ? Randy Depuigné.
Oui, parce que self-control, enfin le truc de démarrage, il n'a pas fonctionné du tout.
Voilà. Donc,
il a mis l'accélération, ça n'a pas géré l'accélération. Donc
c'est traction control.
Bref, ça c'était une petite parallèle, une parenthèse.
Il y a quand même donc moto 2, moto 3, là il y a quand même des Français.
Ah oui, quand même. En moto 2, il y a Zarco, dont on attend toujours.
Top 5 quand même.
Ouais, quand même. Je pense que cette année, il y a les moyens et la moto pour faire quelque chose. On disait ça l'année dernière non plus, mais.
Ouais, là il y a des gros clients qui sont partis de la catégorie en fait.
Oui, voilà, c'est ça.
Et donc là maintenant, il y a peut-être le champ libre.
Alors normalement, tu m'as dit que Rossi ne faisait plus partie.
Rossi
qui était, parce que moi je l'ai inscrit en moto 2 également.
Apparemment il est redescendu en moto 3 Rossi, hein.
D'accord, ok, bon, écoute,
et puis il y a aussi Jules Danilo qui est un pilote lillois qu'on va suivre cette année
en
plus particulièrement
moto 3 avec une Mahindra
en charge par un team italien et qu'on aura peut-être prochainement dans le studio là.
Bien. Donc moto 2 c'est toujours c'est la bagarre entre les châssis en fait, hein, en fait donc il y a le Calex, le châssis Calex
Suter et Calex Suter, qui représente 24 motos sur toute la,
donc c'est le même moteur, hein.
Oui.
C'est le même moteur pour tous les pilotes. J'ai vu, je crois qu'il y avait 32 ou 36 pilotes inscrits en moto 2, donc le même moteur, il se les change, hein,
et un tir au sort, et on tire au sort en cours de saison.
Ça, c'est pas mal, non ? Ça fait la part au pilotage. Hein. C'est celui qui a le plus
justement, ça a été beaucoup critiqué au début et après, finalement, maintenant, c'est pas mal. Donc, ouais.
Mais on peut avoir un petit avantage sur la partie cycle. C'est ce qui prouve un peu que ça fait 2-3 ans que c'est le cadre Kalex qui gagne, je crois.
Kalex qui domine. Oui, qui domine les essais cette année, c'est Kalex qui domine quand même.
Très bien. Après, on parle Moto 3 peut-être tout de suite.
Oui,
avec la nouvelle le team de
Valentino.
De Valentino là.
Oui. En fait, le problème en Moto 3, c'est que il y a deux constructeurs là, c'est pas le même moteur. Il y a même trois constructeurs, il y a Mahindra. Et en fait, le KTM est beaucoup plus compétitif que les autres. Donc ceux qui sont sur KTM sont vachement avantagés. On l'a vu cette année parce que dans les essais, le meilleur c'est Miller, et un Australien. Et c'était le meilleur Honda l'an dernier. Et cette année, il y a une KTM. Et du coup, il est devant. Le moteur. Normalement, Honda devrait rattraper son retard. Ils sont en train de le faire, j'imagine. Parce que, quand même, ils ont débauché les deux meilleurs pilotes de l'an dernier, à savoir le fils.
Alex Marquez. Alex Marquez, le frère. Rince.
Et puis Rince, qui avait fait une très belle saison, puisque jusqu'au dernier Grand Prix, il pouvait gagner. Donc. Ils ont été les débauchés, mais par contre, ils n'ont pas la moto qui leur permet de se montrer devant.
Aux essais, Rins ça fait que le dixième temps au niveau des essais maximum, quoi. C'est une des premières Honda.
Il était blessé. Hein. Ouais, donc, plus, et c'est vrai qu'il a été remplacé par un petit Français qui fait le championnat du monde, le championnat espagnol. Et qu'il a remporté l'an prochain. Il est trop jeune pour pouvoir venir en MotoGP.
Oui, il y a aussi Alexis Masbou.
Hein. Oui, Masbou, qui reste avec Honda et qui espère avoir de Honda une aide aussi conséquente que Rins et
Alex. Premier pilote Honda cette année dernière d'ailleurs. Était premier pilote Honda derrière toute l'armada KTM.
C'est Miller.
Non, c'était Miller. C'était Miller qui était le premier Honda.
C'est vrai que Masbou était bien.
Juste après.
J'ai perdu la place.
un peu d'infos calendrier, Christine.
Oui, donc deux journées de roulage le samedi 22 mars, journée de roulage organisée par le MNRT sur le circuit de Croix-en-Ternois. Et le lundi 24 mars, une journée de roulage organisée par Street Bike 80 sur le circuit des Écuyers à Beuvard.
Et un peu de Superbike avec Gilles.
Oui, avec, on va revenir sur le début de ce championnat qui a été idyllique pour notamment
les Français.
Donc Sylvain Gattoli a démarré le week-end par une pole position, la troisième de sa carrière. Il s'élance en tête et puis malheureusement très rapidement il se fait un peu passer par quelques pilotes qui lui disputent cette première place. Enfin, il mène une partie de la course en gros. Il mène une partie, parce que j'ai pas beaucoup de temps, il faut que j'aille très vite. Il mène une partie de la course et puis il se fait rattraper par notamment un pilote qu'on n'attendait pas du tout, Eugene Laverty. On parlait tout à l'heure de Suzuki, qui
Suzuki,
est revenu du Diable Vauvert de la 13e place et a commencé à remonter en cours de course pour aller chercher la tête de la course et remporter et faire remporter à Suzuki une victoire. Victoire en Superbike qui n'était plus arrivé depuis 4 ans.
3-4
voilà.
Ans. Ouais.
Et donc, c'est quand même le fait numéro 1 de cette première. Le retour de Suzuki. On parlait tout à l'heure pour le GP.
Oui, surtout.
Est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas? Moi, je pense que Suzuki va y mettre les moyens.
Oui, je pense aussi. La moto est perfectible. La preuve, c'est qu'en deuxième.
n'anticipe pas. Alors, effectivement. Cette première course, mais Sylvain Gattoli monte quand même sur le podium. Donc il marque des gros points et puis il est pas tout seul sur le podium puisqu'il y a aussi
Landry aussi
puisqu'il y a Mélandry qui monte sur le podium et puis aussi Tom Sykes le champion du monde de l'an dernier et donc la course ça s'annonce disputée et en deuxième course même scénario mais cette fois-ci Sylvain Gattoli qui avait pris un départ un peu rapide en première course parce qu'il a déclaré qu'il était trop confiant et il avait un peu tapé dans ses pneus à la fin de la course pas pu suivre le rythme de la Suzuki qui était partie beaucoup plus tranquillement et donc en fait c'est un problème de pneumatique qui a fait qu'il n'a pas gagné cette première course. En deuxième course il a fait une course beaucoup plus sage et il s'est imposé mais tranquillement, les doigts dans le nez, on va dire, alors qu'il est encore, je vous rappelle, encore blessé
exact.
À l'épaule.
Il doit, 100%,
il, entre les deux courses, c'est-à-dire la prochaine qui aura lieu le 13 avril à Aragon, il va encore devoir se faire opérer. Et malgré ça, il a été très très bien. Il a été impérial et d'ailleurs, il est aujourd'hui en tête du championnat du monde. Alors, ce qui s'est passé aussi comme fait marquant, c'est qu'en deuxième course, on a vu la chute de Tom Sykes. La course a dû être interrompue à la suite d'une casse moteur. Et à la suite de cette interruption de course, Sylvain Gattoli... avec Loris Baz se sont disputés pendant tout au long la première et la deuxième place. Les deux Français ont fait une démonstration de force. Et
tous les deux blessés pendant l'intersaison.
Voilà, tous les deux blessés en plus. Mmh. Mais là, ils sont revenus très en forme. Ils montent tous les deux sur le podium. Je me suis trompé, c'est Sykes qui est tombé
en première course.
Et Sykes monte sur le podium avec les deux Français. Un peu dépité, Sykes, on le sentait bien. En première course, il n'y avait pas les bons réglages, a-t-il déclaré. Maintenant, on voit qu'on a deux. On a au moins là les trois. Trois marques un peu qui se disputent. Donc on a Suzuki qui est revenu, Kawasaki et toujours Aprilia, toujours très fort. En super sport,
super.
Un scénario aussi complètement inattendu.
Un coup de Trafalgar.
Avec effectivement une course qui démarre avec nos Français qui étaient 11e et 14e place sur la grille, donc pas du tout en position de force. Je veux parler de Jules Cluzel sur MV Agusta, s'il vous plaît.
Le retour d'MV Agusta.
Voilà.
En super sport.
Et puis il y avait aussi Jérémy Guarnoni.
Oui.
Donc voilà. Et puis il y avait aussi un troisième homme, Jérémy Guarnoni, qui est en. Donc on a plusieurs Français dans cette catégorie.
Forêt aussi.
Forêt est en Superbike maintenant. Ouais. Il est en Evo. Voilà. Donc en super sport, on avait.
Qui était blessé aussi, le troisième français. C'est
Français qui s'est disputé la course, et qui alors, vous savez pas, Florian Marino.
Marino.
Voilà.
Marino.
Donc on a Florian Marino, et Florian Marino, donc en fait, la première course se déroule, on voit bien que Cluzel commence à gratter vers la 4e, 5e place, et puis il y a une bagarre, et puis d'un seul coup, pareil, une casse moteur.
Drapeau rouge. De l'huile sur la piste, donc on arrête.
De l'huile sur la piste, et donc drapeau rouge, et on repart là, du coup, pour 5 tours, les 5 tours qui restaient. Et on se dit, bah, qu'est-ce qui va se passer ? 5 tours, ça va être une tuerie. Et effectivement, on a vu une course, mais à tomber par terre.
Ouais.
Avec effectivement.
Les cinq premiers dans un mouchoir de poche.
Voilà, donc dans ces 5 premiers, on a Jules Cluzel, qui a fait une course vraiment incroyable, intelligente et remarquable. Florian Marino, qui a mené une bonne partie des cinq tours. Il s'est fait malheureusement rattraper par Coghlan et De Rosa, deux pilotes qui ont réussi à prendre le meilleur sur Marino et qui montent sur le podium également. Alors, mais en tout état de cause, pour le Superbike, on ressort de cette première épreuve de Phillip Island avec 3 Français au top niveau, c'est-à-dire Jules Cluzel en leader, leader super sport, et puis Guintoli et Baz, leader de la catégorie Superbike.
À suivre.
Cocorico.
Petite question d'un des auditeurs là, sur notre page Facebook. Il aimerait bien savoir où on peut regarder cette année la moto au GP à la télé gratuitement.
Gratuitement.
sur la Belge.
RTBF2. RTBF2, oui. Une partie, pas tout.
Voilà, je vous fais une dédicace.
Au compteur, il reste 1 minute 7 secondes. Dépêche, pronostic tout de suite. En MotoGP. Dépêche-toi, Claude.
En MotoGP, je vois bien un retour de Lorenzo.
Oui.
Ah oui, parce que je pense que Marquez va faire des erreurs cette année.
Bon. Mais bon. Après, deuxième.
Marquez.
Ouais.
Et Rossi, troisième.
Ah ouais, t'as encore confiance en lui. Ouais. Bon, d'accord. Et toi, Nico ?
Moi, je vois Marquez, Lorenzo, Rossi avec Dovizioso et Espargaro qui viennent donner les tout brefettes.
Ah, d'accord. Ouais. Et Christine,
Alex, Lorenzo, Marquez, Rossi.
Marquez.
Allez, bien Rossi.
Moi, je vois Marquez, Rossi, Lorenzo.
Voilà. Vous avez noté, on va réécouter cette émission parce que j'ai pas le temps de noter.
Après, vous faire Moto 2.
Et Moto 2, non, bah, dépêche-toi, il reste 30 secondes.
Allez, Rabat, Nakagami et Kallio, ou Lutti ou Zarco.
Voilà, et Claude ?
Lutti, moi, je vois un retour de Lutti.
3 secondes.
Par contre, je mets un nouveau Vinales, deuxième, et Esteban Arraba, troisième.
Je vois que Gilles veut faire
Zarco sur le podium. Je le souhaite.
Bon, voilà, l'émission se termine. Voilà, Laurent, il nous fait grand signe. À dimanche prochain, et puis passez une bonne fin de journée.
Salut.